Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 22 mai 2020. Merci d'être au rendez-vous hebdomadaire du Forum de la presse que nous consacrons au décryptage de l'actualité de la semaine avec des confrères des médias de Niamey. Aujourd'hui, nous parlerons de la levée de l'isolement de la ville de Niamey ainsi que de la reprise des transports interurbains par le gouvernement du Niger. Autre décision, l'annonce par le gouvernement de la réouverture des établissements scolaires le 1er juin prochain, si la tendance de la maladie à coronavirus continue de régresser. Pour finir, nous parlerons sécurité avec les attaques répétitives dans la région de Diffa. La plus récente est celle de Bilabrine, village situé à une quarantaine de kilomètres de Guingimi, région de Diffa, où 12 militaires ont perdu la vie d'après un communiqué du ministère de la Défense. Pour échanger sur ces sujets, nous recevons Garé Amadou, il est journaliste au quotidien La Nation. Bonsoir Garé.
Oui, bonsoir.
Hassan Boukar, il est journaliste à la radio Alternative. Bonsoir.
Bonsoir.
Et nous avons au bout du téléphone Roufaï Dandoua, journaliste à freelance. Bonsoir Roufaï.
Bonsoir Nafissa.
Et à la présentation, c'est Nafissa Adam Sirfo. Merci, chers confrères. Après la levée du couvre-feu à Niamey et la réouverture des lieux de culte, le gouvernement du Niger décide de l'arrêt de l'isolement sanitaire de la ville de Niamey ainsi que la reprise des services des transports passagers. Alors, Roufaï, un ouf de soulagement pour les populations, selon vous?
Ah oui, c'est un grand ouf de soulagement pour la population. Vous vous rappelez, on a parlé dans le studio de Kalangou, ici même. On avait dit à l'époque que c'était vraiment un goulot d'étranglement pour la population de Niamey, même si c'est vraiment la mort dans l'âme d'accepter cela. Mais aujourd'hui, qu'on l'a fait, je pense que le gouvernement a pesé le pour et le contre. Et si on se rend compte que ça fait 2 ou 3 jours que la ville de Niamey n'a pas recensé un cas, donc je pense que c'est quelque chose qui a été minutieusement étudié. Et aujourd'hui, on se rend compte que le gouvernement a pris une bonne décision. Et je pense que les gens vont continuer à respecter les mesures barrières édictées par les autorités pour qu'on ne revienne pas à la case départ. Puisque vous vous rappelez, le gouvernement a dit que si on se rend compte que les gens ne respectent pas tout ce qui a été dit, et on risque de revenir à cela. Je pense que c'est une importante chose. Aujourd'hui, les gens sont contents, ils vaquent à leurs occupations, surtout vous rappelez du couvre-feu qui a bloqué les gens dans la nuit, juste après la rupture, et aussi Niamey qui a été coupé du reste du pays. Je pense que c'est une bonne chose. On ne peut que saluer les personnels soignants qui ont fait un bon travail, les autorités aussi qui n'ont ménagé aucun effort pour que cette maladie ne soit pas telle qu'elle a été annoncée partout dans le monde.
Un ouf de soulagement, mais il faut vraiment que ces gestes barrières soient respectés par tout un chacun. Alors, Garé, à ce jour, on sait que toutes les 8 régions du Niger enregistrent des cas de maladie à coronavirus. Selon vous, quel sera l'impact de cette décision sur la progression ou bien la régression de cette maladie? Doit-on s'attendre à une progression ou une régression?
Oui, dans les régions, quand même, je m'inquiète, surtout quand on voit ce qui se passe au niveau de Zender. Je m'inquiète beaucoup parce que c'est, en fait, cette sorte de déconfinement est intervenu au moment où il y avait des cas qui se multipliaient au niveau de Zender.
Oui, et au Zender.
Bon, donc vous voyez, ce qui m'inquiète, c'est que aujourd'hui, si vous procurez la ville, pratiquement, c'est pas sur 10 personnes, vous allez voir une personne seulement qui porte un masque. Mm-hmm. Est-ce que vous comprenez? Et dans les mosquées, je crois que les gens ne sont pas en train de respecter les mesures barrières, là, les 1 mètre de distance, etc. Oui, oui. Il y a des mosquées où les gens vraiment font preuve d'une grande discipline. Mm-hmm. Mais dans certaines mosquées, je vous dis que les gens sont serrés comme d'habitude. Et ceux qui risquent de de faire en sorte qu'on revienne à la situation d'avant,
d'avant,
comme l'avait prévenu le gouvernement. Mmh. Si on revient à ça, si les cas commencent à se multiplier, on va encore arriver à un moment où on va arrêter la l'occupation des mosquées, etc. Vous savez, l'OMS a dit que cette maladie-là, on va être obligé de vivre avec elle, comme on vit avec d'autres maladies. Donc, autant commencer dès maintenant. S'habituer à vivre avec. Seulement, j'ai dit, il y a un sens de responsabilité que les uns et les autres doivent avoir. Je vous dis que quand vous parcourez la ville, quand vous allez dans les marchés, sur 10 personnes, vous allez voir une seule personne qui porte un masque. Mm-hmm. Et ça, c'est extrêmement dangereux.
C'est dangereux.
Surtout que les scientifiques ont dit que non. C'est-à-dire que ce n'est même pas l'éternuement et le toussement qui fait. Il dit que même quand quelqu'un parle les gouttelettes là, il dit le virus sort dedans.
C'est
ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, je me réjouis du fait que pour le moment, Niamey est en train de contenir la maladie.
Mm-hmm.
Mais quand je sors, je vois les gens qui ne portent pas de masque, j'ai dit, il y a vraiment une inquiétude qui est là, qui est palpable.
Effectivement, pour les secteurs de transport, les transports en commun reprennent finalement après plus d'un mois de suspension d'activité. Toujours ces gestes barrières. Pensez-vous que ces gestes barrières pourraient être vraiment respectés à Hassan Boukhar dans ces transports communs?
Mais je pense qu'il faut simplement parler aux voyageurs. Hein. Il faut sensibiliser. Il faut que les compagnies de transport puissent dire que c'est important à tous les passagers qu'ils transportent. C'est important pour eux-mêmes, mais aussi pour le reste de la communauté. Hier, par exemple, je rentrais dans un magasin. Ici, on m'a dit, mais si vous n'avez pas des bavettes, vous ne rentrez pas. Bon, je trouve que c'est responsable.
C'est responsable.
Parfois, comme Gary l'a dit, dès lors que les mesures sont levées, alors, l'impression qu'on a, c'est que c'est peut-être du passé, quoi. Les choses se sont allégées et donc on peut peut-être ne pas vigoureusement respecter les mesures barrières.
Mm-hmm.
Je pense qu'il faut parler aux gens, appeler au sens des responsabilités des gens, expliquer que non seulement avec ces mesures, on peut se protéger, il faut protéger les autres et tout ça. Il y a quand même une cinquantaine de morts dans ce pays. Hein.
Mm-hmm.
Donc, il faut quand même montrer que cette maladie, même si, mais peut-être pas ce qu'on a présenté au départ avec toute cette catastrophe annoncée pour l'Afrique,
oui.
Il faut quand même se rendre compte qu'elle fait quand même des victimes. Donc, il y a eu près de 900 de nos concitoyens qui ont été affectés par la maladie.
Mm-hmm.
C'est donc quelque chose qui est là, qui est réel, face auquel il faut continuer à prendre des mesures. Mais ça demande beaucoup de sensibilisation.
Effectivement.
Gary rappelle le cas des mosquées. Moi, je me suis toujours posé la question. Alors, je me dis, lorsque vous dites que vous levez les mesures sur les lieux de culte, est-ce que vous avez la possibilité de réglementer le reste? Bon, vous avez toujours des gens qui vous disent, écoutez, à la mosquée, selon la tradition islamique, vous devez être serrés les uns aux autres.
C'est ça
qui est dit l'islam. Alors, est-ce que, malgré tout, il y a cette dérogation pour dire, bon, il y a la maladie, il faut qu'il y ait quand même l'espace. Alors, ça fait tout un débat.
Voilà.
Je pense que, mais ce débat, je ne l'ai pas entendu avant la levée des mesures. Parce que ce n'est pas simplement en disant respecter les mesures barrières. Non, il y a des spécificités. On a quand même choisi de fermer les lieux de culte, pas les marchés dans ce pays-là.
On le vend dans d'autres pays.
Voilà. Et donc, à mon avis, et c'est un peu ça, moi, mon regret hein, sur la communication par rapport à ce Covid. Il y a, à force de trop centraliser la communication, tous les débats sur des questions pratiques telles que comment se gèrent les mosquées, quel est le rôle de ceux qui gèrent la mosquée, les imams et tout ça, le rôle des leaders, tout ce débat, on l'a totalement escamoté. On s'est contenté de communiquer parfois ou d'en arrêter pour dire voilà ce qu'il faut faire, comme si les choses vont d'elles-mêmes. Donc, à mon avis, on a vraiment escamoté un débat qui aurait pu mieux dire de façon pratique quand je suis dans tel ou tel cas, comment je peux m'en sortir.
Mm-hmm.
Je pense que cela, on l'a raté.
Mm-hmm.
Ce qui fait que dans les mosquées, comme Gary l'a dit, écoutez, les gens prient normalement. Hein. Ce que les gens attendaient,
c'était l'ouverture.
Dès lors qu'on ouvre, le reste, ils le gèrent comme ils le géraient de tout temps.
Une meilleure communication, oui.
Oui, en fait, ce que je voulais ajouter, vous savez, on fait face à deux problèmes actuellement ici au Niger. D'abord, il y a beaucoup de gens qui ne croient même pas que la maladie existe.
Effectivement.
Deuxième chose, il y a les gens qui pensent que non, on a le soleil, ça ne peut pas nous faire du mal. Nous, on est presque immunisés. Donc, ces deux problèmes-là. Et les gens ont mis ça dans leur tête. Ils y croient dur comme fer.
Bien avant même toutes ces décisions, les gens priaient comme ils le veulent.
Comme ils le voulaient. Ils se disaient que non, oui, il y a le soleil, on a dit qu'à 25 degrés, le virus est mort, donc il n'y a pas de risque. Et c'est ça qui fait que finalement, c'est difficile Et quand les gens ont inculqué ça dans leur propre subconscient, c'est difficile de leur faire comprendre que, non, attention, c'est pas parce qu'il y a le soleil, vous voyez bien qu'il y a 50 morts. Ces 50 morts-là, ils ne sont pas morts à l'extérieur, ils sont morts au Niger. Donc faites attention. Voilà.
Et pour revenir sur la question de ces transports, Roufaï, pensez-vous que ces patrons de ce secteur du transport, les transports urbains, est-ce que vous pensez qu'il y aurait un bon suivi pour le respect des gestes barrières dans les bus?
Oui, merci. J'aimerais juste revenir sur ce que Abou a dit. Je pense que quelque part, quand vous voyez dans les mosquées aujourd'hui encore, en dehors peut-être d'une ou de deux mosquées dans la ville de Niamey, tu ne vas pas trouver une mosquée où on exige les mesures barrières comme le port des masques ou la distanciation sociale. Et je pense que, comme l'a dit Abou, c'est une question de communication. Sûrement qu'on a dû laisser ce problème à la charge des associations islamiques qui, elles, n'ont pas fait un travail de sensibilisation à l'endroit des imams des différentes mosquées. Aujourd'hui, nous tous, on a été dans des mosquées, on a prié pour les prières de nuit avec peut-être des gens qui portent les imams des virus, mais qui ne se sont pas identifiés ou qui se... Que si nous-mêmes nous ne portons pas les jambes de ce virus. Bref, je pense que quelque part, la communication n'a pas été bien faite, comme l'a dit Abba. Et cela aussi se ressent dans les compagnies de transport. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on ne s'assied pas sur la chaise d'après ou d'avant qu'on a pris les mesures barrières. Ils vont le faire pendant une ou deux fois, désinfecter les voitures une ou deux fois, tant qu'ils ne sont pas bien suivis, ils vont le faire. Je pense qu'on doit continuer encore et encore à sensibiliser les gens et à former les gens pour qu'ils puissent être tout le temps aux côtés de ces personnes pour que les gens n'amènent pas ou n'apportent pas cette maladie ou à Yamey, ou l'amener à l'intérieur du pays. Parce que tant que cela n'est pas fait, c'est dans la voiture. Et comme l'a dit Garé, quand on tousse à moins d'un mètre, d'aucuns disent même à 1m25, voire 1m30, le virus peut aller d'une personne à une autre. Je pense que cela doit être fait pour qu'on sensibilise encore les gens afin qu'on évite la progression de la maladie. C'est vrai, 50 personnes comparativement à d'autres pays, c'est peu, mais 50 personnes pour ceux qui ont perdu leurs proches, c'est vraiment énorme. Et on en a vraiment souffert dans nos chairs parce que on a bloqué les gens dans leurs maisons, dans leurs activités. Il faut qu'on continue et la sensibilisation. Il faut que les gens soient encore disciplinés et encore et que l'État comprennent qu'il faut impliquer tout le monde dans la sensibilisation pour éradiquer à jamais cette maladie, même si l'OMS a dit qu'on doit apprendre à vivre avec elle, comme peut-être le paludisme.
Autre aspect, dans un point de presse mardi dernier à Niamey, le ministre de l'Enseignement supérieur et coordinateur des différents programmes de l'éducation, Yehuza Sadissou, a annoncé la réouverture de tous les établissements d'enseignement pour le 1er juin prochain en raison de l'évolution positive de certains indicateurs de la maladie de coronavirus. À ce propos, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, CDUSN, a des inquiétudes. Pour le secrétaire général, Ider Al-Ghabit, l'État ne cherche pas à sauver l'année, mais à faire en sorte que les élèves aillent aux examens qui seront programmés. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter.
Nous réjouissons de cette information, mais quand même nous restons sceptiques par rapport à un certain nombre d'inquiétudes qui tournent autour de cette rentrée. Parce qu'il vous souviendra que les mois de juin et juillet sont des mois de la saison pluvieuse dans notre pays et que nous avons un nombre important de classes en paillotte et des élèves sans table banc. Nous avons beaucoup d'inquiétudes sur la régularité des cours pendant cette période. Deuxièmement, nous avons de grosses inquiétudes sur le fait qu'on puisse finir le programme dans ces 45 jours donnés. Il ne s'agit pas de sauver l'année académique coûte que coûte, mais de faire en sorte que les élèves puissent s'en sortir avec le cursus académique adéquat afin de faire face aux différents examens qui seront programmés. Troisièmement, le gouvernement, à travers le ministre de l'Enseignement supérieur, a annoncé qu'il y aura des gestes barrières devant tous les établissements. Nous avons des grosses inquiétudes parce qu'il n'y a rien qui nous prouve que ces mesures et la propagation de ces virus-là ne puissent pas, en tout cas, s'accentuer. Dès lors, suivi le point de presse du ministre, nous avons pris attache avec le gouvernement afin, en tout cas, de poser ces inquiétudes aujourd'hui qui rendent la rentrée effectivement ambiguë.
Alors, après écoute du secrétaire général de l'USN, CDUSN, Garé, doit-on vraiment être sceptique comme le secrétaire général du CDUSN?
Non, mais le secrétaire général du CDUSN a raison de s'inquiéter. Parce que vous savez, il ne s'agit pas de faire ces deux mois de cours et partir aux examens. Ces examens-là vont se faire sur la base de quel programme? Parce que tant que le programme n'est pas achevé, il n'est pas question qu'on fasse des épreuves, par exemple, sur des modules qui n'ont pas encore été faits. Mm-hmm. C'est ça le risque, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire, il ne s'agit pas coûte que coûte de faire juste des examens pour faire des examens. Il faut que faire en sorte que les programmes puissent être achevés. Est-ce qu'ils peuvent être achevés dans les deux mois? Mm-hmm. S'ils peuvent être achevés dans les deux mois, c'est bien. Maintenant, concernant les mesures barrières, quand on connaît le campus, quand on connaît les amphis, n'est-ce pas, qui sont déjà souvent bondés à des cours où certains n'ont même pas de siège. Mm-hmm. Comment est-ce que ça va se faire? C'est ça moi mon inquiétude. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des réflexions pour voir comment, parce que jusqu'à présent, par exemple, parce qu'on dit que les écoles primaires aussi vont ouvrir le premier. Mais alors, je n'ai pas entendu une réunion convoquée par les directeurs d'école où il va expliquer aux maîtresses et aux maîtres tout ça. Je ne vois pas ça. Alors comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura une sorte de double flux? C'est-à-dire, on va laisser les élèves d'une classe la moitié faire cours de telle heure à telle heure, après comment ça va se passer?
Tout ça, c'est le flou. Des propositions qui doivent être faites en
mais ça il reste combien de jours? Il faut que les gens dès maintenant qu'il commence à... C'est pas le jour J qu'on va appliquer les mesures, non. Réfléchissons et faisons des simulations si possible, pour voir si c'est possible. Parce que il ne sert à rien d'ouvrir les écoles. On va se rendre compte de l'impossibilité de faire des distances parce que les élèves, soit il y a une partie qui vient à l'école aujourd'hui, les autres restent à la maison et demain c'est les autres. Je ne vois pas comment, jusqu'à présent, c'est le flou complet. Et donc, je suis d'accord avec les inquiétudes exposées par Al-Ghabid. Il a raison. Il faut, rien n'est clair pour le moment et effectivement, il y a lieu d'être sceptique parce que jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas donné des explications nécessaires qui puissent comprendre que non, ce processus d'ouverture des écoles-là est un processus qui est en marche et qu'il va marcher.
D'accord. Voilà. Les obstacles, ils sont donc nombreux quant à la bonne reprise de ces écoles-là. Vous êtes d'avis, vous aussi, Hassan?
Oui, je pense que ça renvoie un peu à ce que je disais il y a un instant. Le gouvernement veut juste prendre les décisions sans mesurer ce que cela implique. Bon, nous sommes face à une situation qu'on n'a pas vécue avant, c'est totalement inédit. Moi, l'idéal aurait été pour le gouvernement d'appeler les acteurs de l'éducation, de discuter, d'échanger pour voir si on devait rouvrir, quelles sont les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie. Alors, quand le gouvernement convoque les partenaires, c'est juste pour leur communiquer qu'il va ouvrir. Donc, ce n'est pas à la réflexion qu'il les invite. Or, la situation, regardez dans d'autres pays, quand on essaie d'ouvrir, il y a tout un débat pour savoir comment ça va se faire. Regardez un aspect assez simple. Alors, vous avez des classes de 50-60 élèves.
Dans d'autres classes.
Alors, vous dites, vous mettez peut-être 15 élèves, peut-être 20 élèves, vous faites double ou triple flux, je n'en sais rien. Alors, ça a aussi un coût sur le personnel enseignant. Est-ce que vous avez discuté de ça avec eux? Donc, ça suppose que cette décision a quand même beaucoup d'implications. J'ai l'impression que pour le gouvernement, je vais quand même, parce que perdre une année d'un point de vue politique, ça a quand même beaucoup de conséquences. Probablement, il veut se protéger de ça. Mais aussi, en même temps, il faut être sûr que les conditions sont réunies. Les cours ont été arrêtés en mars, je crois. Alors, normalement, le cours aurait pu se faire en avril, en mai, en juin, à peu près 90 jours avant de passer aux examens. Mais là, il veut le faire avec la moitié du temps, 45 jours, c'est ce que j'ai compris. Du coup, dans un pays où le système éducatif est déjà séquillé, alors on refait encore une éducation au rabais pour faire des examens à la fin. Bon, le gouvernement le fait juste pour lui, à mon avis. Il ne le fait ni pour les élèves, ni pour les parents aussi, que je n'ai pas entendu. C'est aussi dramatique dans ce pays qu'on parle d'école et que les parents répondent aux abonnés absents. Il s'agit de l'avenir de leurs enfants, il s'agit de l'école, mais les parents ne réagissent jamais. Aujourd'hui, les parents doivent être capables de dire, vous parlez de l'avenir de nos enfants, consultez-nous, est-ce que nous sommes d'accord avec ça?
45 jours, ce n'est pas évident vraiment.
45 jours, qu'est-ce qu'on ferait? Et là, je n'évoque même pas toutes les questions liées aux intempéries et autres qu'a évoqué le secrétaire général de l'USN.
Effectivement, la saison des pluies.
dès que vous avez une pluie qui permet aux plantes de pousser, les gens abandonnent les écoles, hein, surtout en milieu rural. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Peut-être que vous allez faire des examens en milieu urbain, mais ailleurs, ça va être extrêmement difficile. Donc, mm-hmm. à mon avis, le gouvernement, juste, il voit bien les conséquences d'une mm-hmm. fermeture des écoles et les pressé de les ouvrir sans vraiment faire la réflexion sur, de façon concrète, comment tout cela va mm-hmm. se faire. Et là, vous verrez, c'est quand les cas vont se poser qu'on va réfléchir. Alors qu'il fallait prévoir comment ça va se faire.
Alors, Roufaye, les tout-petits aussi reprennent l'école ce 1er juin. On sait que, si on peut le dire, ce sont des personnes vulnérables. Comment s'assurer vraiment du respect de ces gestes barrières chez ces tout-petits-là?
Vous savez, je n'ai pas voulu utiliser le mot sceptique que mes confrères ont utilisé, mais au vu du sort qui a été réservé ces dernières années à l'école nigérienne, et on ne peut être que sceptique. Je voulais dire qu'il y a des inquiétudes de part et d'autre. Pourquoi? Parce que quelque part, vous avez comme l'impression que les syndicats des écoles, les syndicats des enseignants, même si, entre parenthèses, je suis un promoteur d'une école sur votre chaîne, je crois que c'est hier, qui disait qu'ils sont prêts, mais qu'il faut que l'État fasse quelque chose. Vous avez comme l'impression que et l'État n'a pas associé les syndicats des promoteurs des écoles privées, les structures syndicales ou même les associations des enseignants pour trouver les voies et moyens pour que cette reprise se fasse dans des meilleures conditions afin que l'année puisse être achevée. Certes, le programme ne se fait jamais à 100%, mais aujourd'hui, avec ce qu'on a vécu, cette maladie de coronavirus, et les mesures barrières sont importantes. Garé l'a dit, est-ce qu'il y aura un double flux? Les gens certains vont étudier le matin, d'autres le soir. Et si c'est le cas, est-ce que c'est avec le même enseignant du matin et un autre du soir? Si c'est, est-ce que lui aura le temps de se reposer? Vous voyez, autant de questions qui doivent être posées et qui sûrement n'ont pas été posées pour le trouver des solutions. Et aussi, aujourd'hui, imaginez qu'on dise aux gens de revenir continuer les études, surtout les étudiants à l'université de Niamey, et qui regorge 20 à 25 000 étudiants, même si tous ne sont pas logés au campus universitaire. Comment ils vont faire? Ils vont-ils revenir dans leur sur le campus universitaire ou non? On ne sait pas encore. Bref, autant de questions qui restent sans réponse et qui sont de nature à inquiéter, comme l'a dit Hider, les élèves et les étudiants et les parents d'élèves aussi, et qui doivent s'inquiéter sur la santé de leurs enfants. Parce que vous l'avez vu un peu partout dans le monde, beaucoup de parents ont refusé même de faire ramener leurs enfants à l'école. Nos parents ont-ils la possibilité de le faire? Je pense que non. Et je pense que ça va être extrêmement inquiétant de part et d'autre.
C'est vraiment inquiétant. Oui, Gary.
Je voulais dire, parce que vous savez, moi j'étais en train de réfléchir, je me dis, bon, on dit qu'on va ouvrir les écoles primaires. Mm-hmm. Bon, on ouvre les écoles primaires. Je peux comprendre, dans une classe, on fait un mètre de distance entre deux élèves. Mm-hmm. Oui, mais à la récréation, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, on empêche les enfants de jouer ou qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, à la maternelle, les enfants ne jouent pas? C'est ça? Mm-hmm. C'est ça? C'est quoi le plan, en fait? Je ne comprends pas.
À la maternelle, c'est bien sûr les jeux.
Mais c'est les jeux. Et les enfants sont... Mais alors, c'est ça l'école. Mais alors, comment est-ce que... Franchement, j'attends de voir cette rentrée-là pour voir comment est-ce que... En tout cas, le gouvernement est en train de vouloir aborder ça. Parce que pour moi, il y a beaucoup d'interrogations, vraiment.
Mm-hmm. Alors, nous allons marquer une petite pause avant de poursuivre ce débat. Parlons à présent de sécurité. 12 militaires nigériens ont été tués et une vingtaine blessés suite à une attaque perpétrée par des éléments de Boko Haram de la nuit du 18 au 20 au mardi 19 mai sur une position des forces de défense et de sécurité de Bilabrin située à 45 km de Gingimi, Difa, région de Difa. Cette attaque, on le sait, est la énième du genre dans le même mois de mai. Alors, Hassan Boukar, comment expliquer cette recrudescence des attaques de Boko Haram dans la région de Difa?
Mais j'ai fait le constat, comme vous le dites, que d'abord la ville de Difa elle-même elle a été l'objet d'attaques récurrentes ces derniers temps, notamment ce pont qui mène à Douchi et au Nigeria. On parlait d'ailleurs le week-end passé de roquettes qui ont été tirées vers les positions des forces armées sur cette zone. Donc il y a vraiment une sorte d'activisme de Boko Haram dans cette zone. Mais Blabirine aussi, hein, je pense que c'est la deuxième attaque en moins de 6 mois. En octobre déjà, il y avait une attaque qui a fait presque le même nombre de victimes à Blabirine. Vous l'avez dit, qui est à seulement une quarantaine de kilomètres de Ngimi. Donc ça pose beaucoup de questions. Alors, comme on l'a vu, c'est une attesse. Probablement que Blabirine est un poste très exposé de par sa position, puisque situé dans les îles du lac Tchad. Donc ça fait beaucoup d'inquiétude, à mon avis, dans la région aujourd'hui. Et là, avec 12 personnes tuées, c'est quand même dramatique. Et j'ai vu un peu la liste des soldats qui sont tombés, très jeunes, malheureusement. Donc déjà à la fleur de l'âge. Hein. Comme d'habitude, c'est en tout cas dans la plupart des cas. Donc voilà, je pense que ça doit être l'objet vraiment d'inquiétude pour les populations de la région. Parce que là... s'ils peuvent envoyer des roquettes à Diffa, ils ne sont pas loin en fait. Et à un moment, on a toujours dit qu'il y avait une barrière naturelle qui est la Koumadougou. Quand il n'y a pas la Koumadougou, le va-et-vient de part et d'autre de la frontière est très facile. Donc le mouvement est très facile pour les gens de Boko Haram. Mais voilà, donc à mon avis, ça montre qu'on n'a pas encore trouvé, encore une fois, la bonne solution face à ce groupe qui agit peut-être par des éléments très restreints, très mobiles, qui peuvent passer de Diffa à Blabirine ou circuler un peu partout dans la zone. Donc, à mon avis, encore une fois, je pense que par la présence des forces de l'ordre, on n'arrive peut-être toujours pas à régler. Il faut peut-être un meilleur travail de rapprochement entre les communautés et les forces de défense et de sécurité, de façon à ce que cette collaboration puisse mieux aider les FDS à faire leur travail. Mais en tout cas, ce qui se passe actuellement, c'est que bon, ça veut dire qu'à tout moment, tout peut arriver dans la région, à 40 km de Blabirine. Donc ça peut être en Ngimi demain, ils sont à Blabirine, ils peuvent peut-être couper la ville de Diffa. Beaucoup de choses peuvent arriver. Justement. À mon avis, ça doit interpeller tout le monde. Les populations de Diffa meurtries ont toujours lancé un cri de cœur pour qu'il y ait une meilleure protection des citoyens. Je pense qu'il faut bien qu'il y ait des choses qui montrent qu'on veut vraiment changer de stratégie, puisque apparemment, ce qu'on a étudié jusqu'à présent, ça n'a pas eu d'effet contre ce groupe-là.
Effectivement. Alors, Roufaï Dandoua, vous, quelle est votre analyse? Qu'est-ce qui explique, selon vous, ce retour de Boko Haram?
Vraiment, sans être spécialiste militaire ou dans les secrets de ce domaine, je pense qu'il y a un relâchement de la part de quelque part. C'est ce que j'ai rappelé mes prédécesseurs. Dans ce mois de demain, plusieurs attaques. Il faut se dire qu'on a dormi trop sur nos lauriers. On pensait, avec ce qui s'est passé avec l'armée tchadienne et la colère de Bouma, et aussi les succès qu'on a engrangés récemment avec le changement à la tête de la hiérarchie militaire, on a cru qu'on s'est vu trop beau. Malheureusement, l'ennemi étant en déroute et ne voulant pas assumer toute cette déculottée, il a surgi de nulle part et il a pensé que le meilleur moyen c'est de se ravitailler auprès des forces qui sont aux alentours et les forces armées nigériennes sont la cible. Donc, ils attaquent par surprise, ils chassent nos militaires et ils prennent leur... comme l'a dit Garé dans un article que j'ai vu qu'il a écrit, pour se réarmer. Je pense que quelque part, c'est cela qui a été fait. Il faut qu'on comprenne que la guerre n'est pas finie. Et l'armée tchadienne a juste, a juste affaibli Boko Haram. Le Niger aussi est venu donner un coup. Un autre coup, tout comme l'armée nigérienne. Si on avait peut-être fait de manière coordonnée cette attaque avec le Niger, le Nigeria, le Tchad, peut-être qu'on aurait fini avec eux. Mais comme ça n'a pas été le cas, et ceux qui ont fui, qui ont été dans certains pays, sont revenus aujourd'hui d'attaque par surprise. Et c'est notre pays qui a fait les frais et ils ont dit, non, mes prédécesseurs, le pont de l'outil qui sert de courroie pour venir à Diffa est un endroit stratégique. Il fallait que tu puisses le prendre.
Oui, alors l'offensive terrestre et aérienne en avril de l'armée tchadienne avait annoncé avoir tué près de 1000 djihadistes. Mais malgré cela, comme l'a dit Roufaï, les capacités de nuisance de ces terroristes ne fait que perdurer. Qu'en pensez-vous, vous, Gary?
En fait, vous savez, l'armée tchadienne a réellement fait mal à Boko Haram parce que juste après la colère de Boma, il y avait un article, un communiqué de l'ONU qui mettait en garde les pays riverains du lac Tchad sur une campagne de recrutement que Boko Haram est en train d'opérer. Une campagne de recrutement. Et maintenant, non seulement ils sont en train de récupérer des hommes, mais il leur faut des armes. Parce que l'armée tchadienne a détruit beaucoup de leur dispositif. Beaucoup. Donc, il y a une stratégie de harcèlement qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire que d'abord, ils ont commencé par harceler le pont de Douchi pour concentrer l'opinion, alors que peut-être il y avait les attaques qui se préparaient sur d'autres localités comme Bilabrim, comme ce qui s'appelle Bilabrim. Vous savez, ce qui est inquiétant encore plus, c'est que selon mes informations, ceux qui ont attaqué Bilabrim, ce n'est pas le même groupe qui a attaqué le pont de Douchi. Vous savez, Boko Haram, il y a une scission, il y a plusieurs tendances. Mais le groupe qui a attaqué le pont de Douchi, selon les informations que j'ai, ce n'est pas le même groupe qui a attaqué Bilabrim.
C'est un autre groupe.
Voilà. Mais une chose est sûre, c'est que Boko Haram est en position de... Ils veulent avoir des armes. Et comme l'a dit Roufaï, la meilleure façon d'avoir des armes, c'est d'attaquer des militaires ou leur faire peur, ils vont fuir, et puis vous prenez. Vous comprenez? Donc, je pense que quand l'armée tchadienne avait mené l'opération couleur de Boma, Idriss Déby avait bien expliqué. Nous avons fait un premier travail. D'abord, les îles que nous avons libérées, venez les récupérer. Je ne sais pas si ça a été fait. Deuxième chose, quand l'armée tchadienne avait fait la couleur de Boma, selon certaines informations, c'est vrai que ça a été fait en relation avec les militaires nigériens, il fallait que les armées du Nigeria et du Niger, en relation avec celles du Cameroun, établissent en tout cas un plan pour une offensive générale.
Oui.
Vous savez, on ne peut pas tout le temps être à la défensive, parce que pour le moment, l'initiative de la bataille, c'est Boko Haram qui l'a. C'est Boko Haram qui attaque. Est-ce que vous comprenez? Si on arrive à les tuer, c'est qu'il y a eu une contre-offensive. Et puis... Mais là, nous sommes sur une position fixe. Eux, ils sont mobiles, comme l'a dit Boukara. Et ça, c'est un problème. Il faut qu'on parte les trouver.
Là où ils sont.
Moi, une autre information encore inquiétante, on me dit, même ceux qui ont attaqué le pont de Douchi, ils ne sont pas partis loin. Cette offensive-là qu'on nous a chantée entre l'armée, en relation avec l'armée du Nigeria, elle va débuter quand? Pour qu'on fasse comme ce que Déby a fait. N'est-ce pas? Ils étaient affaiblis. Il fallait tout simplement un dernier coup de truc et puis le groupe est pratiquement à terre. Mais non, qu'est-ce qu'on a fait? On a attendu. On n'a pas suivi le Tchad. Je pense que, franchement, il faut que nos pays prennent la mesure de la menace. Si on laisse Boko Haram avoir l'initiative du combat, ils vont pouvoir se renforcer.
En tout cas.
Et ce groupe terroriste va perdurer encore.
Oui, grâce à nous, vous voulez.
Sur le renouvellement des personnes, en fait, là, et c'est ravitaille, il essaie de faire du recrutement. On comprend bien là, quand ils n'ont plus d'armes, qu'ils viennent reprendre les armes que les armées ont, que ce soit au Niger ou ailleurs. C'est vrai que nos armées sont une des sources de ravitaillement en armes de ce groupe terroriste. Mais l'autre chose qui inquiète, c'est justement le recrutement. Pendant des années, aujourd'hui, pendant plus de 10 ans, si Boko Haram a continué à survivre, c'est que quand on l'affaiblit, il a la possibilité de se ragaillardir en recrutant toujours. Ce que les États n'ont pas réussi, c'est de fermer les sources de recrutement. Voilà. Pourquoi il arrive encore à recruter? Qu'est-ce qu'on fait pour empêcher le recrutement? Est-ce qu'on sensibilise les gens? Est-ce qu'on parle aux jeunes? Est-ce qu'on parle d'emploi? Est-ce qu'on parle d'action de développement? Mais en tout cas, ça veut dire qu'on n'a pas réussi encore à bloquer, puisque s'ils n'arrivent pas à recruter, ils n'allaient pas survivre. Donc le fait qu'ils survivent, ça montre qu'ils ont une stratégie efficace de recrutement qui fait que dès qu'ils sont affaiblis, ils peuvent facilement recruter. Mais alors, qui font les États pour tarir cette source à partir de laquelle ils seront
En tout cas, c'est aussi inquiétant.
Un débat. C'est-à-dire qu'on sait à peu près là où ils sont,
oui.
Mais chacun agit seul. On parle de la colère de Boma. On a vu aussi sur cette forêt de comment ça s'appelle, de Sambisa au Nigeria. Mm-hmm. Pendant des semaines, l'armée nigériane a agi presque seule.
Seule, oui.
Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand ils ont chaud, ils sortent de là, ils vont ailleurs dans les autres pays. S'il y a une action coordonnée, peut-être que les résultats auraient été bien différents. Oui. Donc, je pense que si pendant 10 ans, on n'arrive pas à trouver la solution, c'est que on n'arrive pas à avoir de stratégie. Et comme Gary l'a dit, c'est l'ennemi qui impose les règles du jeu. Il vient, l'attaque. Nous, on a des actions, des réactions. C'est-à-dire qu'eux, ils posent les actes. C'est en réagissant à leurs actes que la guerre. Mais à mon avis, ce qu'on n'a pas réussi, c'est de faire des actions coordonnées. Mais aussi, on a quand même du mal à comprendre comment eux, ils peuvent être plus efficaces que les États. Vraiment. Par exemple, du point de vue des renseignements. Chaque fois qu'ils viennent, pourquoi ils réussissent le coup? C'est qu'ils arrivent à les préparer. Ils réussissent leur coup. Rares sont les actions qui ont été contrecarrées avant qu'ils n'arrivent à les poser. C'est après coup qu'on arrive à réagir. Donc, ils arrivent à s'organiser. Ils sont apparemment plus efficaces que ce que les États font. Et du coup, aujourd'hui, ça pose vraiment des vraies inquiétudes sur la capacité des États à réfléchir et à imposer sa démarche à l'ennemi. C'est l'ennemi qui impose. Et là, à mon avis, c'est extrêmement inquiétant. Et ça fait 10 ans aujourd'hui qu'on n'arrive pas à trouver des actions coordonnées pour mettre fin à ça. Et c'est bien dommage.
Il y a quelque chose encore de plus dangereux. Vous savez, avant, Boko Haram, quand ils allaient attaquer une position militaire, c'était des milliers d'hommes qui venaient.
Oui.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'attaque, la première attaque du pont de Douchi, là, c'est pas plus de 20 personnes.
Oui. On a vu la vidéo. La vidéo qui circulait,
non, il n'y avait pas beaucoup de personnes. J'ai dit, la dernière chose à faire, c'est organiser une offensive générale avec les armées du Nigeria et du Cameroun, aller juste dans la forêt du Sambisa, n'est-ce pas? Et s'implanter, c'est pas partir faire une attaque et revenir, non. Avancer et étouffer le groupe terroriste. D'accord. C'est possible.
C'est possible en tout cas avec nos armées.
C'est la même lancée. Oui. Lorsque le gouvernement nigérien a dit aux habitants des îles de la Tchad de vider les lieux, certains sont venus dans des conditions extrêmement désastreuses vers Ngigimi, vers d'autres localités, mais on n'a pas occupé les îles, on les a laissées à Boko Haram. Et donc ça renvoie à la même chose.
Alors Roufaye, êtes-vous d'avis pour cette offensive générale pour venir à bout de cette scène?
Oui, je l'avais dit même aujourd'hui, et on l'avait dit tous au cours des différentes rencontres qu'on a l'habitude d'avoir chez vous. Mais je vais revenir juste sur deux choses, sur le recrutement et la réaction. Gary a voulu parler du recrutement lorsque les Nations Unies avaient parlé de ça. Je crois que les gens n'avaient pas pris ça au sérieux. Et la hiérarchie militaire et au sein de l'opinion publique, tout le monde pensait que non, c'est parce qu'on est en train d'engager des succès que maintenant il y a des gens, des oiseaux de mauvaise augure qui pensent ainsi. Et quelque part, on n'avait pas pris ça au sérieux. Conséquence, Boko Haram s'est réorganisé, a pris d'autres personnes qui, comme l'a dit Abba, n'ont pas été réinsérées dans la société et les ont amenées avec eux. Conséquence, c'est eux aujourd'hui qui attaquent leurs frères d'armes au Niger. Et autre chose, c'est sur la réaction. Même si on réagit, parce que tout le monde a parlé de réaction, c'est Boko Haram qui impose le rythme, c'est Boko Haram qui impose le tempo. Maintenant, nous, on réagit. Mais quand on réagit, on ne va pas loin. Pourquoi? Parce que, imaginez, nous, on est un État, on a, comment dire, on a des hélicoptères, des avions de chasse, on peut les poursuivre jusque dans leur dernier retranchement pour leur faire encore plus mal. Mais non, on les pourchasse juste un peu, ils sortent du territoire nigérien. Et c'est tout, on tue ce qu'on peut tuer et on revient, on reprend peut-être quelques motos, puisque la plupart c'est avec des motos qu'ils viennent. Alors que nous qui avions des avions de chasse, on peut encore les poursuivre avec l'autorisation bien évidemment des puissances voisines, étrangères qui font aussi le même combat. On peut les poursuivre et maintenant ça rejoint la question que vous avez posée. Coordonner avec les puissances étrangères telles le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, et maintenant, et de l'autre côté, eux aussi viennent enlever au milieu et vous voyez les conséquences vont être énormes pour cette nébuleuse. Mais on ne le fait pas, on les pourchasse un peu, ils quittent juste et après, aussitôt après, ils reviennent une semaine après, Oui, c'est ce qu'on a vu pendant ce mois de mai avec les pertes d'énormes en vie humaine aux côtés des migrants. Je pense qu'on doit changer la stratégie de guerre du côté de notre armée pour que plus jamais on ne voit ce genre de situation. Vraiment, on a assez souffert, ça fait plus de 10 ans, Abba le rappelle tout le temps, ça fait 10 ans, parce que je le comprends, et même nous, ça nous fait chaud au cœur, lui qui est de la région, imaginez, c'est que ça fait 10 ans, c'est vraiment trop, il faut que ça cesse.
Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Garé, votre mot de fin sur, sur ce point.
Sur cette affaire de Boko Haram, en réalité, aujourd'hui, la question que beaucoup de gens se posent, mais est-ce que les États ont réellement envie que ça finisse? Parce que je vous dis, je me rends compte, ce qu'a dit Roufaï est tellement vrai. C'est-à-dire, les terroristes viennent attaquer, on les pourchasse. Alors que je crois qu'il y a un droit de poursuite jusqu'à 5 km. Non, non. Mm-hmm. On les pourchasse, on
quelques
va un peu loin.
Et puis on revient.
Derrière le village. Et puis on dit, on les a pourchassés et puis ils sont partis. Mm-hmm. Ils sont partis, non. Il faut les neutraliser.
Parce qu'ils vont revenir tout normal.
Mais pourquoi, bon sang, cette offensive générale, je vais la dire, pourquoi cette offensive générale qu'on nous chante, mm-hmm. pourquoi elle n'a pas lieu? Pourquoi j'ai l'impression que Boko Haram est dans un nid, mm-hmm. on dirait qu'il se sent en sécurité. Il nargue les gens. Parce que quand même, un pont, c'est stratégique pour un pays. Mm-hmm. Quand on me dit que les éléments de Boko Haram ont traversé le pont jusqu'à venir mm-hmm. au niveau du campement militaire, prendre des armes et puis partir, mm-hmm. vous voyez ce que ça fait.
Merci à vous. Alors, pour finir, Hassan Boukar, donc il faut vraiment une offensive générale pour mieux sécuriser ces îles du lac Tchad.
Oui, il faut une offensive. Mais il y a quand même la question que Garé a posée, que j'ai entendue déjà à plusieurs reprises. Hein. Cette question, qui est à la fois grave, mais en tout cas que vous entendez, par exemple, Adifa, c'est est-ce qu'on a vraiment envie de finir avec eux? C'est une question. C'est quand même une question grave. Elle est grave d'autant plus que l'ennemi fait des victimes, que ce soit parmi les FDS, mm-hmm. parmi les populations civiles. Alors, dire aux États, est-ce que vous avez envie d'en découdre avec votre ennemi? C'est une question grave. Mm-hmm. Mais c'est à la fois une question qui a tout son sens, au vu de certaines choses qu'on voit dans la région. Et peut-être que l'avenir nous dira davantage sur cette question.
Alors, merci à vous, chers invités. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices de Studio Kalungu, de nous avoir suivis. Et donc, c'est ici que prend fin ce débat. Nous étions en compagnie de Garé Amadou, il est journaliste au quotidien La Nation. Merci Garé d'être venu. Hassan Boukar, journaliste à la radio Alternative, merci à vous également. Et au téléphone, Roufaïa Amadou Dendoua, journaliste freelance. Merci à vous Roufaï. Et donc, n'oubliez pas le nouveau programme Jeunes, c'est samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en 5 langues, suivi de Tous à la Fada et à partir de 18h15 samedi, le forum à Hausa qui parle d'islam et mariage des enfants et celui en Zerma dimanche à 18h15 qui parlera de comment sauver l'année scolaire 2019-2020 après la pandémie du Covid-19. C'était Nafis Adam Sirfo à la présentation, c'est Nisaka à la technique et à la régie vidéo Mustapha Ayuba. Au revoir et bon début de week-end à tous.